moi c'est André de Mouzma au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. De plus en plus, les auxiliaires de la justice se plaignent de l'attitude de certains magistrats à qui ils reprochent de relâcher certains inciviques et autres bandits avant la fin de leur peine. Et ces personnes en liberté sèment à nouveau de l'insécurité dans leur milieu. Ceci relance le débat sur la question de la réforme de la justice amorcée depuis 2002. Où en est-on avec cette réforme? C'est la question principale de ce débat. Vous êtes nombreux à avoir souhaité intervenir dans cet échange. Merci à vous. La parole vous sera accordée d'un moment à l'autre. Et vous qui nous rejoignez à peine, composez le 081 890 6315 pour intervenir aussi en direct. Sylvain Matundou assure la mise en onde de cette émission et Pierrot et la Mégie et Titim Poutou sont à la réalisation de ce programme présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La réforme de la justice est un des changements clés aptes à remettre le pays sur le chemin du droit et de la croissance. Elle vise à rendre réelle la démocratisation et le respect des droits de l'homme, dit Thierry Virgoulin, un analyste politique. Nous avons en ligne Sylvain qui est à Bounia, Léon à Beni et Maître Machaka à Lubumbashi. Sylvain, bonjour.
Bonjour, je voudrais aussi saluer mon nom est Sylvain Atundu qui est dans votre émission, mais aussi votre invité, et tous les Congolais qui me suivent à ce moment.
Voilà, Sylvain, vous avez suivi notre introduction. Aujourd'hui, nous lançons les débats autour de la réforme de la justice amorcée depuis 2002. Et bien entendu, en partant de ce prétexte, aujourd'hui, les auxiliaires de la justice se plaignent de l'attitude de certains magistrats à qui ils reprochent de relâcher certains inciviques et autres bandits avant la fin de leur peine. Et ces personnes en liberté sèment à nouveau de l'insécurité dans leur milieu.
Oui, laissez-moi d'abord remercier la Radio Okapi pour m'avoir associé à ce débat et surtout avoir choisi un thème qui paraît aussi important, n'est-ce pas, à ce moment où la République démocratique du Congo veut se redresser. Je pense d'abord que la justice, comme vous le savez, sur le plan divin et même sur les aspirations divines, reste le socle, n'est-ce pas, de la construction d'une société et pourquoi pas de l'organisation d'un État. Et tel que vous le savez, beaucoup de juristes le savent aussi, que la justice reste le pilier d'une société. Malheureusement, ce que nous constatons chez nous, il me semble que la justice est devenue même une business, alors qu'en réalité, la justice ne l'est pas. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Puisque là, vous avez dit quelque chose qui est important, M. Gier, mais je vous dirai aussi une autre chose. Lorsque vous avez affaire à des magistrats qui sont des gradués, qui n'ont pas rempli, n'est-ce pas, les conditions pour être magistrat, et donc, je suis tenté de croire que le charlatanisme qui existe au niveau du secteur de la justice, aujourd'hui, est à la cause de tout ce qui se passe. Lorsqu'on arrête un individu et qu'il est présumé être auteur d'une infraction, en fait, on n'a pas de celui-là. Certaines choses à démontrer pour se blanchir. Et curieusement, ce que vous remarquez, M. J.R., je crois que cela est très dangereux, tout simplement, puisqu'on n'a pas affaire à une justice, mais le plus souvent, les gens sont derrière la conquête de l'argent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'injustice est en train d'être constitué dans ce pays. Moi, je pense que au niveau du ministère qui s'occupe des questions de justice dans ce pays, on doit quand même avoir des hommes qui ont le sens élevé de la moralité, un sens élevé de la responsabilité, puisque c'est ce qui pose un problème. et vous allez vous rendre compte dans toute la République. Je ne pense pas que votre invité va me contredire. S'il n'y a pas justice, la société ne marche pas. Et donc, aujourd'hui, la RDC à genoux, c'est tout simplement puisque la justice ne se met pas debout. Est-ce
oui,
que tout administre
oui,
cette
Sylvain.
Justice
oui, Sylvain,
il me
que...
semble bien que cela
s'il vous plaît,
sont dépourvus de tout sens de responsabilité et de conscience professionnelle.
Voilà, Sylvain, et... s'il vous plaît, Sylvain. C'est vrai oui. qu'aujourd'hui, nous saluons l'installation des cours et tribunaux à travers le pays. Hein. Il y a eu quand même un travail de fond qui a été fait à ce niveau. Mais s'il faudrait, ne fût-ce que en regardant ce tribunal installé ça et là, on peut conclure qu'il y a la justice quand même existe en République démocratique du Congo.
Je suis d'accord avec toi et merci pour ton intelligence, mais seulement une discordance de point de vue avec toi sur une seule chose. Ce ne sont pas les bâtiments qui rendent justice, ce sont les individus, ce que vous avez appelé au début de cette émission les magistrats et consorts. Mais qui sont ces magistrats? C'est ça la question. Est-ce que ces magistrats sont à même une seule justice attendue des... C'est une question. Et lorsqu'on amène quelqu'un gratuit.
Voilà, on a des petits soucis avec vous, Sylvain. On va prendre Léon qui est à Béni. Léon, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, cher Lungembo. Bonjour à tous les auditeurs. Merci de m'avoir d'abord accordé cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur vos ondes. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, moi je pense que c'est vraiment un grand problème et tous nos dirigeants doivent... impliqué, puisque d'autant dire que nous sommes dans un état de droit et ne pas peut-être respecter les droits de l'homme, c'est vraiment paradoxal. Et par rapport encore à ces sujets, je pense que si les auxiliaires de la justice commencent à se plaindre, c'est vraiment une réalité, puisque la population, plusieurs fois, c'est plein, mais on pense que c'est vraiment des montages. Mais les gens, les mêmes organes, commencent maintenant à se plaindre. C'est vraiment un problème qui doit être analysé avec beaucoup d'énergie. Et je soulève certains points qui sont à la base de ces problèmes. C'est notamment le clientélisme dans la dénomination, dans l'exercice. Il y a le manque de contrôle. Parfois, si vous lisez les différentes lois qui régissent les magistrats dans leur exercice de fonction, vous comprendrez avec moi qu'il y a les contrôles qui devraient se faire en amont comme en aval. Mais actuellement, nous semblons croire que ce contrôle est vraiment inexistant. Maintenant, les magistrats se permettent de faire ce qui leur semble bon au lieu de faire respecter la loi, en donnant des libertés provisoires à des personnes et mettre beaucoup d'intérêt à la monnaie, donc à l'argent.
Oui, Léon, je crois que vous êtes sans ignorer que le magistrat fait le travail de recherche de l'infraction. Alors, quand l'infraction n'est pas établie ou n'a pas remarqué que le présumé coupable, voilà, n'y est pour rien, je crois qu'il y a quand même des raisons de pouvoir relâcher le magistrat. Pardon, de relâcher le prévenu.
Oui, il peut relâcher le prévenu, mais il faut affronter aussi le plaignant. Et parfois, on libère à l'absence même du plaignant, et on dit le plaignant peut passer demain, et vous revenez demain la personne là qui est accusée, présumée, violeur de la loi,
plus. Voilà, vous inquiétez de ces...
Ça sera une façon de vous faire dormir.
Voilà,
il faut affronter le plaignant et la prévenue pour avoir si le plaignant n'a pas raison.
Voilà, Léon, donc vous évoquez les problèmes de clientélisme, selon vous, hein, dans l'exercice de la magistrature, on nomme n'importe qui à n'importe où pour exercer ce travail. Donc vous décrivez cela. Merci, Léon. Maître Machaka, nous a allons terminer cette première série avec vous, avant d'accorder la parole à notre invité, Ghislain Mouéou, qui est magistrat et secrétaire général adjoint de SIMCO, le syndicat de magistrats au Congo, et porte-parole de ce même syndicat. Maître Machaka, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, et bonjour à l'invité.
Voilà, maître Machaka, c'est vrai aujourd'hui, par rapport à cette question, la plainte des auxiliaires de la justice sur l'attitude de certains magistrats à qui ils reprochent de relâcher certains inciviques et autres bandits avant la fin de leur peine, cela relance quand même les débats autour de la réforme de la justice, la question sur la réforme de la justice amorcée depuis 2002. Où en est-on avec cette réforme? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus?
Merci beaucoup, monsieur J, de m'avoir accordé la parole. Puisque, selon moi, je ne vois pas l'impact, en tout cas, de ces réformes-là de la justice, puisque aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est déplorable. Si le pays aujourd'hui est à genoux, monsieur J, c'est par l'absence de la justice. Et aujourd'hui, vous savez que notre gouvernement, monsieur J, premièrement, il ne parvient pas à respecter certains principes du droit, monsieur Gérard. Il y a un principe du droit qui dit qu'il faut rapprocher la justice au justiciable, monsieur Gérard. Mais ce qui n'est pas fait dans notre pays, puisque aujourd'hui, nous n'avons que les institutions là, juridiques nous laissées par les belles. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui quitte à 300 km pour être jugé. Je vais vous donner l'exemple d'ici chez nous à Lubumbashi, monsieur Gérard. Quelqu'un qui a été attaqué là. Ceux qui connaissent bien Kasenga. Kasenga est positionné au moins 280 km. On l'arrête à Kasenga, il faut qu'il soit jugé à Kipushi. Est-ce que cet homme-là, monsieur Gérard, au moment où on dit qu'il faut rapprocher la justice au justiciable, comment est-ce qu'il parviendra à bien s'exprimer ou bien à bien se défendre, monsieur Gérard? Ça, c'est une anomalie qui se trouve du côté de notre justice. Dédé, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans certains coins, monsieur Gérard. Il n'y a même pas de magistrats. Vous trouvez un OPJ qui rend des justice, même si dans les grands centres, ça se fait, monsieur Gérard. Selon la loi, un officier de police judiciaire ne doit pas retenir quelqu'un après 48 heures. Mais il y a certains prévenus qui font même un mois au niveau dans les mains d'un officier de police judiciaire, et certains magistrats et certaines autorités, ils sont au courant de tout ça. Maintenant, à ce moment-là, on peut dire que cette réforme a un impact sur la justice dans notre pays. Moi, je peux dire totalement non, monsieur Gérard. D'où notre gouvernement doit faire un effort de respecter ce qu'ils sont en train de promulguer ou publier, monsieur Gérard. Et il faut tout ça aussi.
Voilà, monsieur Machaka, on va voir ça avec notre invité. Qu'est-ce qui cloche qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'il y a eu des partenaires qui étaient engagés dans cette réforme. Où en est-on? C'est la question. Et c'est tout un processus. Hein. On va se faire une idée avec notre invité. Merci, maître Machaka. Deli, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Deli, vous avez la parole.
Oui, merci pour m'avoir parlé la parole. Moi, voilà ma lecture pour ce qui concerne la justice dans la République démocratique du Congo. Moi, je pense que souvent, lorsque on intervient, on fait la comparaison entre la justice aujourd'hui et ce qui s'est passé pendant que Moussé Laurent Désiré Kabila était au pouvoir. On va toutefois dire que au moment de Moussé, la justice fonctionnait un peu bien par rapport à aujourd'hui. Et je donne la raison pour laquelle on disait que la justice fonctionnait bien par rapport à aujourd'hui. Moi, je pense que les lois que nous sommes en train de faire aujourd'hui, est-ce que ces lois sont adaptées par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo? Parce qu'on est en train de prendre des lois de l'Europe, le roi de la France, les lois de la Belgique, pendant que vraiment, ça n'a pas les réalités que nous vivons aujourd'hui. La justice aujourd'hui doit s'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo, parce que Moussé a dirigé en tant que dictateur. On ne peut pas avoir honte de le dire. C'est ce qui a fait que beaucoup de choses ont été réglées. Donc la situation où nous sommes arrivés, on ne peut pas avoir les lois que nous avons aujourd'hui et prétendre améliorer la justice. Il faut la dictature. Il faut réprimer.
Donc si je comprends. Si je comprends.
Quand on va réprimer, oui. On va se rendre compte que on va atteindre ces niveaux que les autres ont atteint, mais avec les sensibilisations, les présomptions d'innocence et tout consort, on prétend à arranger la situation. Il faut comprendre les niveaux que nous avons atteints, nous Congolais. Est-ce que nous sommes conscients de ces niveaux, que ce soit les citoyens,
voilà, Deli,
oui. Doivent, oui.
Deli, je retiens une chose, hein, vous décriez le fait que notre droit, le droit congolais, est calqué sur le droit français, au lieu que cela soit adapté à nos réalités. Donc vous préférez un droit congolais à l'image d'une certaine dictature. Mais voilà, donc je ne sais pas, nous sommes en démocratie, ça c'est, voilà, une chose et son contraire. Merci Deli. De Kinshasa, mais on va accorder la parole à notre invité, hein, qui pourrait nous orienter par rapport à ça. 081-890-63-15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Gisèle Mouaouf, vous êtes magistrat et secrétaire général adjoint de SIMCO, syndicat des magistrats au Congo, et vous êtes en même temps le porte-parole de cette structure. Vous avez suivi les uns et les autres. D'abord, bonjour et merci d'être venu. Et voilà, Sylvain Debounia qui a parlé de la justice qui reste le socle même de l'organisation d'une société. Malheureusement, la justice est devenue, disons, c'est une business, hein. C'est vraiment un business au Congo. Voilà, il a déploré, il a même qualifié de notre justice de charlatanisme, voilà, c'est ça le terme qu'il a utilisé, parce que on recourt aux magistrats qui sont dégradués, ça c'est selon lui. Alors il demande à ce que le ministère en charge de cette question puisse élever l'essence de la responsabilité pour amorcer réellement le processus de réforme. Et Léon qui a parlé également de clientélisme dans l'exercice de la magistrature, il y a un problème de contrôle. Maître Machaka est revenu sur ça en martelant qu'il y a l'absence de la justice en RDC, parce qu'il faudrait cette justice de proximité. Il y a certains coins où il n'y a même pas de tribunaux, il n'y a même pas de cours d'appel. On arrête quelqu'un à Kasenga, on va le juger à Kipushi. C'est toute cette distance-là, c'est en ligne de compte. Alors, aux uns et aux autres, que répondez-vous, Justin Mouaou?
Oui, merci pour avoir été invité à cette grande émission. Et j'ai aimé les préoccupations de tous les auditeurs de Radio Capi. Cela démontre à suffisance qu'il y a un problème. Et s'il existe un problème actuellement dans notre pays qui nécessite cette réforme, donc cela veut dire qu'il n'y aura pas de réforme au sens structurel de ce terme sans qu'il y ait d'abord la tenue des états généraux de justice. Je pense qu'on aurait pu commencer par la tenue des états généraux de justice pour essayer d'épingler tous les problèmes. Et tous les problèmes, vous trouverez que lorsque vous prenez le Sylvain qui est à Bounia, lorsqu'il considère que la justice c'est le socle, c'est, moi je dirais même, c'est l'épine dorsale, hein, de toute une structure étatique. Donc c'est la justice, d'ailleurs dit-on, la justice élève une nation. Donc si on considère que la justice élève une nation, je renvoie l'auditeur tout simplement par rapport à ce que l'auditeur a dit. Je parle tout simplement de la devise de notre pays, justice, paix, travail. Donc vous constaterez que les constituants ont considéré que ce pays ne peut, sa devise commence par la justice, donc la justice c'est l'épine dorsale. Alors, si la justice est l'épine dorsale, donc aujourd'hui, la justice doit être une justice, comme le dit d'ailleurs la Constitution, que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Alors, si la justice est rendue au nom du peuple congolais, donc la justice doit être au service de la nation. Ce n'est pas une justice qui doit être au service des individus. Alors, pour que cette justice soit au service de la nation, il faut que cette justice ait des moyens qu'il faut. C'est pour ça que vous avez suivi, quand on parle de la proximité de cette justice, ou approcher les justiciables des justiciers, ou les justiciers des justiciables, c'est pour dire, au moins, il fallait prendre en ligne de compte qu'il y a des coins qui sont inaccessibles. Déjà, les conditions de travail, même pour les magistrats, là, je vous parle en tant que syndicaliste, les conditions de travail pour les magistrats posent déjà problème par rapport à l'organisation administrative de notre pays. Alors, lorsque quelqu'un doit quitter, comme il a dit, Kasenga, pour faire 280 km pour atteindre Kipushi, où il y a les parquets de grande instance, dites-vous, est-ce qu'il est mis à la disposition des magistrats de véhicules pour atteindre ce coin? Donc c'est pratiquement difficile. Donc,
mais non, l'ONG RCN a travaillé en 2002 au niveau en Itourie, par exemple, pour la restauration de la justice. Oui. C'est vrai, il y a un travail de fond qui a été
oui, fait. Oui, nous sommes d'accord avec les autres qui viennent. Nous saluons les partenaires que le gouvernement peut avoir avec les partenaires, mais j'ai toujours souhaité que la justice, c'est un problème national. La justice, ce n'est pas un problème des étrangers. Les étrangers nous accompagnent, c'est pour cela qu'il y a c'est comme ça qu'ils passent par cette réforme de la justice. On parle de renforcement de la capacité. Et moi, je pense que, à mon humble avis, c'est un problème national. Donc aujourd'hui, ceux qui ont la charge de la chose publique doivent se mettre d'accord que nous voulons offrir à notre pays quel genre de justice. Oui, on a donné les cas des magistrats gradués qui vont, oui. Je ne sais pas, parce que vous savez, dans certains coins, et ça c'est quelque chose qui est aussi à déplorer, et c'est ça la conséquence réelle de ce qu'on a appelé le dialogue intercongolais de San City, qui a permis à ce que dans certains coins où il y avait la rébellion, que tout ce que la rébellion nommait comme autorité judiciaire ou autorité politico-administrative soit réintégrée par rapport aux accords de San City. Et je ne pense pas, par rapport à ce que la partie qui a été gérée par le gouvernement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des personnes, des gradués en droit qui pouvaient être des magistrats. Parce que la condition pour être magistrat, de par le texte, c'est être licencié en droit ou docteur en droit.
Ce n'est pas les cas sur le terrain.
Oui, mais sur le terrain, il y a ce genre. L'un des mois de prendre en considération les deux concours qui ont été organisés. Je me rappelle, le premier concours a été organisé par le défunt président Laurent Désiré Kabila. C'était en 1999. Et le second a été organisé
tout récemment
ici, où on a pu recruter Luzolo. On a pu recruter au moins 2000 magistrats. Et si il y a des cas isolés, c'est mieux de les dénoncer, parce qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature qui a son président, qui est le premier président de la Cour suprême de justice, et il y a un secrétariat permanent. Si on connaît qu'il y a un magistrat qui œuvre quelque part, alors qu'il n'a pas, il ne remplit pas les conditions, il faut considérer que c'est un fausseur, donc on peut le dénoncer et qu'il soit poursuivi. De sorte que, ces anomalies, ou je peux appeler ça, c'est que les auditeurs ont pu qualifier des clientélistes, ne puisse pas avoir.
Alors, la magistrature aujourd'hui est un business.
Hein, oui, la magistrature, business. Bon, je ne saurais pas tout de suite là faire l'avocat des magistrats pour dire que. Mais au fait.
On arrête les Kuluna, par exemple, on arrête certains inciviques ou autres bandits plus vite. Rapidement, ils sont relâchés.
Oui, les auditeurs doivent savoir que, vous savez, les magistrats et parmi les personnes qui sont soumises avant l'exercice de leurs fonctions à la prestation d'un serment. Et les magistrats, lorsqu'ils prêtent serment, ils prennent l'engagement de respecter la Constitution et les lois de la République. Ce qui fait que quand vous prenez l'article 17 de la Constitution de notre pays, cet article a donné déjà les jalons. Les magistrats ne peuvent pas aller procéder à des arrestations arbitraires pour couvrir une arrestation arbitraire d'un non-péché. Il est vrai que on peut signaler les cas chez nous de certains magistrats qui peuvent déraper, parce que nul n'est parfait. Ça, c'est un problème qui peut être résolu avec des dénonciations. On peut renforcer facilement la discipline au sein de notre corps. Parce que tout magistrat qui aura commis une faute disciplinaire, il aura commencé par violer son serment. Et vous trouverez que quand vous prenez les statuts de magistrat, la violation seulement du serment, c'est un manquement déjà et ça peut conduire et à tous les autres actes de dérapage. Alors, ce qui fait que, outre les cas isolés, des personnes qui sont nés avec une certaine criminalité, je ne pense pas qu'aujourd'hui la magistrature peut être présentée comme un business. Il n'y a pas de business dans la magistrature parce qu'il n'y a pas une marchandise que nous vendons. Nous ne faisons que rendre justice. Et lorsque nous rendons justice, on ne rend pas justice moyennant argent.
Oui.
On
rend justice... Là, peut-être, je ne sais pas si les auditeurs
qui sont en ligne,
les relations entre les avocats, les juges...
On doit aussi prendre en considération que la justice, ce n'est pas seulement le magistrat du parquet, ce n'est pas non plus le magistrat du siège. Il y a aussi les personnels de l'ordre judiciaire qui constituent aussi greffiers et secrétaires de parquet.
Les personnels judiciaires ou non magistrats.
Non magistrats qui sont de l'ordre judiciaire, qui peuvent aussi être considérés comme des citoyens qui peuvent aujourd'hui faire déraper le fonctionnement de la justice.
C'est pourquoi parmi les objectifs de cette réforme, il est question de renforcer les capacités
et notamment d'abord tenir les états généraux de la justice.
Voilà,
vous avez parlé aussi des avocats, mais c'est encore un autre groupe.
On va peut-être entendre ça par nos auditeurs, Jean-Pierre qui est à Kinshasa, Maître Donat qui est à Kinshasa également, et puis Neville à Kananga. Jean-Pierre, merci de nous rejoindre, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à l'invité.
Oui, Jean-Pierre, vous avez la parole.
Oui, d'abord, je remercie la Radio Capi pour les sujets. La justice, vraiment, dans notre pays, est en train de connaître un moment qui n'est pas du tout bon. Et dès lors, on est en train de critiquer en disant que la justice n'est pas bien faite dans notre pays. Mais de l'autre côté, on est en train de prendre des mesures pour aider que la justice puisse aller de l'avant, sans pour autant que ces mesures puissent avoir des impacts visibles. Au contraire, on est encore en train de faire des choses pour empirer la justice. Vous savez, l'état, le niveau de vie même des magistrats, ça les pousse à être vraiment des personnes corrompues. Les plus où vous apprenez qu'ils ont des problèmes de salaire, ils ont des salaires qui sont insignifiants par rapport à leur vie, et ils sont des personnes qui doivent juger, qui ont beaucoup d'argent, qui les proposent le plus souvent l'argent. Et cela fait en sorte que la justice n'est pas rendue comme il se devait. Mais aussi, les personnes qui sont arrêtées. Vous allez voir une personne qui a violé aujourd'hui, et après des jours, vous les retrouvez encore en circulation. Et imaginez la personne qui l'a accusé, dans quel état il se trouve. Tout ça, c'est une faute à la justice. Vous allez voir, par exemple, une personne qui a volé dans votre maison et qui a même tué des personnes. Et après quelques jours, vous les voyez encore circuler. Vous voyez l'état dans lequel vous mettez un Congolais ou un investisseur étranger qui est dans votre pays. Vous voyez la complicité des magistrats dans l'organisation de certains forfaits. Il y a parfois des prisonniers qu'on relâche dans des prisons pour aller commettre des forfaits ou pour voler, et quand ils reviennent, ils sont en train de s'entendre pour voir comment départager les butins. Il y a aussi la corruption. Bon, pour la corruption, nous ne pouvons plus en parler puisque c'est presque normal dans notre pays. Les gens essayent de ne plus en parler puisqu'ils trouvent ça déjà normal. Mais la corruption a vraiment élu domicile au niveau de la justice de notre pays. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Il y a aussi un système des intouchables. Il y a des personnes qui sont intouchables. Quels que soient les forfaits qu'ils commettent, on ne les arrête pas puisqu'ils sont de tels rangs ou ils sont de tels niveaux et ils ne sont pas arrêtés. Et les magistrats, et avec tous ces problèmes, et parfois il y a des personnes, quand ils voient qu'ils ont commis un tel forfait, ils ne peuvent pas les chercher puisqu'ils craignent pour qu'ils ne puissent pas avoir des répercussions pour son travail. Ils veulent chercher à garder son travail. Parlons maintenant des prisons. Toutes ces personnes-là que j'ai citées qui doivent être arrêtées, ils sont dans quelle prison? Hein, puisque la justice dit que nous devons respecter, ça exige le respect des droits et de l'équité. Vous arrêtez une personne pour les mettre dans quelle prison? Ce sont des dépôts. Ce sont des anciens dépôts. Par exemple, les cas de la ville d'Issiro. Vous avez la Misa. C'est un tel ancien dépôt d'Amisa qu'on en a fait une prison plutôt. Donc, vous trouvez des personnes qu'on a mis là-bas, on a essayé de toller, on a mis quelque chose, mais les personnes qui sont là, ils sont des personnes qui ont aussi besoin des droits et consorts. Mais on les a mis là, les plus souvent, vous entendez des évasions, ils sont en train de fuir, puisque ce ne sont pas des choses conçues comme prison. Et si, dans un chef de district, il se pose un problème, mais allez, pensons à ce qui peut être dans les territoires. Voyons ce qui peut être dans les territoires.
Ou encore dans les chefferies.
Imaginez qu'il y a des prisons dans notre pays qui ne sont pas tolées. Les personnes, ils sont là des fois par volonté. Il y a des prisons où les gens sont là puisqu'ils ont la bonne foi d'y être. Et ils sont là puisque, bon, ils ne veulent pas partir. Mais il n'y a pas de prison dans notre pays. Quand vous arrêtez une personne, il doit subir ses peines. Mais où est-ce qu'il va les subir?
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Maître Donat est à Kinshasa, il attend également. C'est vrai, vous avez évoqué la question de l'impunité et aussi l'état des lieux de nos prisons actuellement, parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse réhabiliter ces instances carcérales, parce que c'est quand même important pour donner quand même la chance à la justice ou que le droit soit dit comme il faut ou comme il fallait. Maître Donat, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour beaucoup, monsieur.
Voilà, Maître Donat, vous avez la parole. Est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Pierre qui vous a précédé en évoquant l'impunité qui va s'en plaindre dans notre justice?
Tout à fait, monsieur Juillet. Mais avant tout ça, je voudrais saluer votre invité. Je voudrais saluer le magistrat vraiment. Avec qui, parfois, on fait beaucoup de débats. On est dans un même quartier. Je connais sa personnalité. Il est un homme intègre. Pour ça, je le remercie. Merci. Je voudrais beaucoup plus dire ceci. Tout ce que mon prédécesseur vient de dire est vrai et valable. Le problème de notre justice, moi je pense que le premier responsable, c'est notre gouvernement. On dit toujours la justice élève une nation. Ça dépend, tout dépend des décisions que les autorités politiques de notre pays prennent en ce qui concerne la justice. Qu'est-ce qu'ils veulent de la justice dans notre pays? Quelle est la volonté qu'ils ont de pouvoir mettre des moyens ou de pouvoir harmoniser les conditions dans la justice de notre pays? On a parlé des problèmes de prison par-ci par-là. Je vous assure qu'il y a quelques jours, sur Radio Capi, on a parlé par exemple du tribunal de grande instance de Belluévo, qui va s'écrouler dans peu de jours. Je suis même le procureur de là en train de plaire. Là, il est en train de plaire à la télévision pour dire que ces bâtiments-là vont s'écrouler dans un peu de temps. Comment voulez-vous que les gens travaillent dans ces conditions-là? Un magistrat qui est en train de travailler, il sait que les bâtiments dans lesquels il travaille peuvent s'écrouler à tout moment.
Ce sont des conditions... Mais Maître Donat, à ce niveau, vous partagez l'avis selon lequel que la réforme, c'est une nécessité, la réforme de la justice, telle qu'amorcée déjà par l'ONG RSEN à l'époque. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas eu un appui. Des gens qui ne sont pas venus, disons, en appui pour aider RSEN à amener au bon port ce processus des réformes. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on fait du sur-place, quoi.
Oui, moi je dis, je suis d'accord qu'il y ait des réformes, mais qui doit vous faire ces réformes? C'est ce que moi je dis, la première responsabilité incombe au gouvernement. Ce n'est pas une ONG de faire des réformes dans notre pays, un si grand pays comme ça, une ONG va s'organiser pour tout faire. Le gouvernement doit avoir un budget conséquent quant à ça. Quels sont les bâtiments dans lesquels les magistrats doivent travailler? Quelles sont les conditions dans lesquelles les magistrats vivent? Qu'est-ce qui lui touche comme moyen? Et après, dire aux magistrats, nous vous avons donné tous les moyens, vous avez toutes les bonnes conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler, et maintenant vous devez rendre une bonne justice. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement devrait être derrière ça pour voir. Vous avez tout ce qu'il fallait, vous êtes dans de bonnes conditions, mais maintenant vous ne nous rendez pas une bonne justice qui a mal fait quelque chose, et là on doit réprimer. On ne peut pas, dès le début comme ça, sachant toutes les conditions dans lesquelles ces gens, ces grands messieurs sont en train de travailler, et les demander de vous donner plus que ce qu'ils peuvent par rapport aux conditions dans lesquelles...
Voilà, donc si je comprends bien Maître Donat, avant toute réforme, il conviendrait d'abord de penser une pédagogie de la réforme permettant d'identifier des stratégies, méthodes et outils appuyés sur des vrais indicateurs. Donc tous les problèmes passés en revue, comme l'a dit, notre invité, Justin Mouéou, qui est magistrat, qui a parlé des états généraux. Donc c'est, je crois, à ce niveau qu'on devait d'abord identifier. Merci Maître Donat. Neville, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Neville, vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole, JR. Je voudrais saluer l'invité qui a des bonnes idées. Je voudrais d'abord commencer par dire que, parole aux auditeurs, cette émission et puis la radio Capi, c'est vrai, mais c'est pas un espace de plaintes. Nous ne pouvons pas commencer à nous lamenter,
voilà,
plaindre, mais c'est de débats constructifs. Nous devons avoir des idées constructive, mais pas seulement jeter les sorts sur les gouvernements, etc. À ce niveau, il faut d'abord commencer à préciser les choses. Je voudrais aussi relever un aspect. C'est que le mot du bien, ça l'indique bien, c'est la justice. Hein, il y a une conception très erronée sur la justice au Congo par les personnes, hein, c'est-à-dire la population congolaise n'a pas une idée plus ou moins précise et clair sur le mot justice. Parce que je connais beaucoup de gens, lorsqu'il a des problèmes au quartier avec quelqu'un, ils estiment que quand il va aller directement se plaindre, il aura d'abord raison. Ça, c'est de un. De deux, il dit à son voisin, bon, maintenant, là, la Kisao qui n'a ma casse. Tu vois, là, il croit que quand il va aller au niveau de la justice, la justice vient, il l'arrête sans l'avoir entendu. Bon, on le fouette. Il faut d'abord essayer de dédramatiser cet aspect-là. Hein? Beaucoup de gens estiment que quand on va... Les mots disent bien justice. Vous allez chercher la justice, vous n'allez pas faire souffrir les gens. C'est d'abord ça, le premier problème. Le deuxième problème, Montesquieu, lorsqu'il a parlé des trois pouvoirs, des pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et aussi les pouvoirs judiciaires, et c'est le principe que nous appelons la séparation des pouvoirs. Je sais que l'invité connaît et tout le monde connaît ça. Il faut qu'il y ait effectivement cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a vraiment un problème. Hein, la justice au Congo, c'est comme on le dit souvent, c'est une justice des toits d'araignée. Elle est vraiment faible pour les forts, elle est aussi forte pour les faibles. Donc elle évolue vraiment à des niveaux, hein, à des vitesses. Il faut essayer de voir comment séparer ces deux pouvoirs-là. Mais par rapport à la réforme, oui, il faut appuyer l'idée de l'invité. Il a dit qu'il faut commencer par les états généraux. Quels sont les différents problèmes qui asphyxient l'appareil judiciaire congolais? Donc, lorsqu'on a déjà décrypté tous ces problèmes, c'est alors qu'on peut avoir un projet dans ce sens-là. Donc, moi, je crois que tout ce que nous avons comme idée, c'est pour construire notre pays. Hein, nous avons une génération qui va venir dans les tout prochains jours. Et déjà, le cours des notions de droit, je voudrais aussi arriver que ça soit donné dans presque tout, dans presque toutes les sections des humanités, là. Hein? Il y a un principe en droit qui dit la loi est dire, mais c'est la loi.
Duralex,
Duralex, Faiblex. Même si on ne la connaît pas, mais moi je crois qu'il faut commencer par montrer la loi aux gens.
Voilà,
il y a déjà un minimum de connaissances autour du droit.
Merci beaucoup, Nadi.
Qui doit être donné partout et il faut des séances, des animations pour expliquer la quintessence de la réforme, par exemple. L'ami a dit tout à l'heure là que ce n'est pas une ONG qui paie. Non. Une ONG qui a des moyens et qui en a vocation peut organiser une réforme, mais appuyée par les gouvernements. Dire qu'une ONG ne peut pas avoir un projet dans ce sens, je crois que c'est pas...
Merci beaucoup.
C'est bien, mais c'est pas du tout comment.
Merci beaucoup, Neville. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et je crois qu'à ce niveau, on est tous censés connaître un peu quelque chose sur le droit. Maître José Londola, merci en tout cas. Il y a ceux qui sont vraiment acteurs judiciaires, hein, qui appellent pour apporter quand même quelques précisions et faire des analyses avec nous. On va terminer cette série des auditeurs avec vous. Maître José Londola, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez aussi la parole.
Je voulais d'abord vous remercier pour m'avoir associé dans ce débat. Et ce qui est vrai, c'est que notre justice est vraiment malade. Très malade, il faille des mécanismes appropriés pour la soigner. Et ce qui est à la base de tout cela, il y a beaucoup de facteurs. Nous avons des facteurs endogènes, mais aussi des facteurs exogènes. S'agissant de facteurs endogènes, nous pouvons, par exemple, citer le cas de l'incompétence de ceux qui sont investis du pouvoir de dire le droit et qui doivent redorer l'image même de cette injustice. Il y a des gens qui sont arrivés, vous savez, à la magistrature, qui n'ont pas la vocation d'être magistrat. C'est pas peut-être pour des raisons des circonstances qu'ils sont devenus magistrats ou ils sont devenus agents de la justice. Ils n'ont pas eu cette vocation-là de devenir magistrat. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de failles dans l'administration de la justice. Notamment, il y a la corruption, nous avons la concussion et tout cela. Le cas le plus frappant au niveau de notre justice, c'est surtout l'abus de pouvoir par les autorités judiciaires chargées de dire effectivement le droit. Moi, je vais vous citer un cas. Au parquet général de Kinshasa, Matete, il y a un justiciable du nom de monsieur Emmanuel Kélékatoa qui est sérieusement persécuté par un substitut du procureur général. Ce magistrat, après avoir morcelé la propriété d'un privé à la 17e rue à l'unité industrielle, où M. Emmanuel Kélékatoua est liquidateur judiciaire, ce magistrat s'est permis par voie de réquisition d'information pour procéder au morcellement d'une parcelle, même que ce soit appartenant à autrui. Par le même mécanisme, c'est-à-dire une réquisition d'information, ce magistrat est parvenu à céder même des portions de terre appartenant à cette succession à des personnes de sa préférence.
Oui, mais Maître José, pour les cas d'espèce, oui. la justice oui. prévoit quand même des sanctions à l'endroit de ces magistrats.
Mais c'est prévu dans la... C'est ça le problème.
C'est ça prévu.
Il est en train de faire tout cela parce que justement il n'y a pas de sanctions. Si du moins il y avait des sanctions positives ou négatives, c'est-à-dire lorsque le magistrat travaillait bien.
Vous proposerez, Maître José, dans l'avenir, c'est vrai que quand on pense déjà à la réforme, c'est vrai qu'avant qu'on y arrive, comme l'a proposé notre invité, il faut qu'il y ait des états généraux. Ces genres de problèmes, pour vous, quelle peut être la solution? Donc il faudrait qu'on puisse extirper l'abus de pouvoir, c'est ça?
Oui. Il y a en plus extirper l'abus de pouvoir dans les chefs des magistrats. Je m'associe ou j'épouse le point de vue d'un confrère qui a parlé qu'il faille... qu'on puisse soutenir cette ONG qui voudrait assez qu'on procède par l'analyse critique par voie des états généraux. Je souscris entièrement à cela. Mais ce qui est vrai, c'est que même si on faisait ces états généraux, dès lors que l'administration, les autorités qui sont chargées de dire le droit ne sont pas moralisées, je crois que même si on fait les états généraux, la situation restera toujours la même.
Merci beaucoup, Maître José. On va terminer avec vous, Jadot Loubiro. Jadot, bonjour.
Oui, bonjour. Je Rilungembo, bonjour l'auditeur. C'est Jadot depuis Masereka, Loubiro, territoire de Loubiro, province Nord Kivu. Et en fait, la question du jour relative à la magistrature, c'est-à-dire aux questions judiciaires de notre pays, ce sont des questions qui préoccupent la plupart des Congolais. Mais la première des choses, comme Maître l'a dit, il faudrait qu'on passe d'abord à assigner les notions de droit le plus élémentaire, au moins, dans les cours de civisme, comme ça s'appelle l'éducation civique morale aux humanités, pour que les citoyens grandissent et connaissent quand même certaines notions de droit. Et comme dans notre constitution, on dit le pouvoir judiciaire doit se sentir indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Cela pouvoir nous permettre à ce que les magistrats puissent travailler avec toute indépendance. Mais aussi les magistrats, tout le corps, parce qu'il y a ce qu'on appelle les instances préjudictionnelles et les instances juridictionnelles. La vraie justice s'est rentrée dans les instances préjudictionnelles, c'est-à-dire tous les officiers de police judiciaire. Tous les inspecteurs judiciaires devraient être des personnes recrutées dans des grandes écoles de droit que nous pourrions organiser sur toute la zone de la République, d'ailleurs dans le cadre de la spécialisation des personnes qui puissent connaître les droits. Parce que, à ces articles premiers, le Code pénal dit « Nulle infraction ne peut être punie de peine qui n'était pas portée par la loi avant que l'infraction fût commise. » Donc ça veut dire quoi? Dans ce pays, vous trouverez des gens qui sont en prison pour des causes non infractionnelles. Donc, des faits non répétés infractionnels, vous trouverez déjà être en prison. Mais aussi, c'est comme ici en territoire de Loubiro. Les vrais problèmes qui sont connus, ce sont des problèmes de terre. Vous trouverez des gens qui sont en prison pour question de terre. Alors que la Constitution dit, le problème coutumier, ils ne sont pas des cas infractionnels. Mais comment comprendre quelqu'un pour... peut-être ne pas payer la redevance coutumière puis se retrouver en prison.
Donc là, ça demande quand même
je serai en train de finir, je vais
aussi,
quand on parle de problèmes de magistrats qui ne sont pas bien payés, ça c'est un faux problème. Parce qu'à la déjeunade, ce sont des taxes aussi judiciaires. Est-ce qu'on peut nous faire connaître, je pose la question à l'éviter, combien de bordereaux de versements de la part des juridictions qui sont dans le pays verse dans les comptes, dans les trésors publics, pour qu'ils attendent de retomber. Parce que moi, j'ai comme l'impression ici, M. Gérard à l'Est, nous n'avons que le tribunal de paix à Butembo, le tribunal de grande instance à Butembo. Mais je n'ai jamais vu un vieux qui sort de ce tribunal avec un bordereau de versement à un compte public. Et alors vous trouverez que les gens ont pris la justice pour un enrichissement. Alors être
voilà, merci beaucoup.
Magistrat à Boutembo, c'est s'enrichir.
Merci beaucoup, Jadot. Le temps pour nous de revenir à notre invité 081 890 6315 pour participer en direct de ce débat.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue, Ghislain Mouéou, vous avez suivi ce qu'on a fait les tours de la République, on a quand même senti voilà, la température et puis finalement, d'aucuns estiment que, bon, avant même la réforme, même s'il faudrait parler de cette réforme ou des états généraux qui pourraient précéder, mais il faut mettre l'accent sur la séparation du pouvoir et ça nous permettra d'éviter des histoires du genre abus des pouvoirs et les magistrats qui sont impunis. Voilà, tous ces problèmes-là.
Oui, ça c'est vrai, la séparation du pouvoir, elle est déjà textuelle, parce qu'elle est déjà consacrée par la Constitution. Et là, c'est question tout simplement que chacun de nous respecte le contenu de la Constitution. Et la Constitution ne peut pas être violée constamment par ceux qui sont appelés à la faire respecter. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la Constitution. Il est vrai, j'ai suivi certains auditeurs qui sont dans certains milieux, et nous savons qu'il y a une autorité budgétaire qui est appelée le Parlement. Le budget de l'État passe par eux. Est-ce que la population s'est déjà donné la peine de demander à tous les élus, parce que nous les avons élus.
La part allouée à la justice.
Oui, la part allouée à la justice. Parce que le problème, c'est un problème national, ça ne doit pas être un problème des individus. Ces personnes-là doivent être responsables. S'ils veulent, parce que chaque fois on veut jeter l'opprobre sur le gouvernement, alors qu'il y a des personnes qui sont chargées de pouvoir allouer. Il y a une autorité budgétaire. Et cette autorité budgétaire a été élue par le peuple. Donc, et cette autorité budgétaire est censée connaître tous les problèmes.
A une idée très claire sur les problèmes.
Sur les problèmes. Donc, population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez senti ici, il fallait qu'on retourne le budget 2012 pour une seconde lecture par le président de la République, parce que on a estimé que les budgets alloués à l'armée étaient insuffisants. De la même manière, qu'il faudrait que bien qu'ils doivent analyser le budget de l'armée, qu'ils tiennent compte de tout ce que les auditeurs ont pu dire.
La sécurité,
oui,
justice.
Justice, parce qu'il n'y a pas, la justice d'abord en elle-même, c'est une sécurité pour tout le monde. Le fait seulement qu'un bâtiment de l'État peut exister, où on sait qu'il y a des magistrats qui y travaillent, c'est déjà quelque chose, c'est une façon de prévenir à ces domaines. Quand il y a absence de magistrats, vous avez suivi certains auditeurs, ils vous disent, bon, à certains coins, il n'y a même pas de magistrats.
Mais vous allez, par exemple, à Kengé, nouvellement installé, il n'y a pas de
ce sont ces conditions-là que nous sommes en train de regretter. Il est vrai aussi qu'il y a pléthore dans la ville de Kinshasa. Ça aussi, dans le chef-lieu de province, ça aussi, c'est un problème qui doit être réglé.
Et tout récemment, des magistrats qui ont quitté Goma et qui sont arrivés à Kinshasa, et certains parmi eux, en tout cas, on n'a pas toute l'information, et certains parmi eux ne veulent pas retourner.
Oui, parce qu'ils estiment qu'ils ont été insécurisés, et ça ce n'est qu'une évidence, mais ce sont des cas un peu isolés. Mais il y a à comprendre qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais ces problèmes ne peuvent trouver la solution qu'à travers les institutions, l'ordre étatique. Et dans l'ordre étatique, nous savons que les problèmes doivent être posés. Les conditions de vie des magistrats, il est vrai aujourd'hui, que j'ai suivi notre ami le tout dernier de Lubero qui a estimé qu'il ne voyait pas de personnes. Je suis d'accord. Je voudrais aujourd'hui que nous aussi, que il est vrai que les amendes et les différentes recettes judiciaires doivent être encadrées par la DGRAD. Bon, il est vrai que les amendes sont payées et peut-être cet encadrement, il n'y a pas peut-être de suivi en cette matière-là. Mais la population elle-même doit savoir que lorsque on doit vous faire payer une caution ou lorsqu'on doit vous faire payer les amendes, ce n'est pas à vous de remettre l'argent au magistrat ou que c'est à vous d'aller payer à la banque. C'est ce que la loi prévoit. Donc, il y a des choses que la population elle-même est en train d'amener, hein, et à pouvoir mettre à la disposition des magistrats alors qu'ils ne pouvaient pas les faire. Parce que quand vous prenez les règlements, l'arrêté ministériel qui prévoit les modes de paiement de dettes envers l'État, l'on vous dit,
c'est l'assujetti lui-même qui se transporte à la banque. Et celui qui paye, il ne vient que présenter...
Mais actuellement ça ne se passe pas comme ça.
Non.
Je parle le cas des amendes transactionnelles. Il y a la DGRAD qui est là sur place.
Oui, la DGRAD ne perçoit pas de l'argent. La DGRAD n'a pas le droit de percevoir de l'argent. Même le comptable qui est là, même l'agent du parquet n'a pas le droit de percevoir l'argent. Même le comptable du tribunal. Il établit, la DGRAD ordonne que ces montants-là, c'est parmi les recettes que l'État doit avoir. Et on remet la note de perception à la personne qui se transporte et elle va payer. Et le comptable ne reçoit que les preuves de paiement. Alors, ça c'est aussi une autre notion qu'il faut inculquer. Or, le Congolais, il aime bien lui ne pas faire beaucoup de choses. Il préfère que les autres les fassent. C'est à ce moment-là qu'il y a des fausses preuves de paiement, parce qu'ils comprenaient toujours qu'en matière d'argent, il y a toujours un réseau de mafieux qui s'introduisent lorsqu'il n'y a pas d'encadrement de ces recettes.
Oui, quelqu'un parlait aussi des cachots, des amigos aujourd'hui. Bon, pour ne pas parler des lieux de prison.
Est-ce que les magistrats
qui, en fait, ont les prérogatives d'aller visiter les cachots, inspecter, les amigos, inspecter, voilà. Aujourd'hui, même à Kinshasa, aujourd'hui, il y a des districts où, au niveau de la police, où il y a des cachots, il y a même des amigos, mais qui ne sont pas inspectés par des magistrats. Il y a même des commandants qui s'y opposent.
Les commandants, si vous apprenez qu'il y a un commandant qui s'y oppose, venez nous tenir informés, nous allons tout simplement l'aider à pouvoir répondre devant la justice. Il est vrai que dans l'histoire de la police, il y a de la mer à boire. Il est vrai que les OPJ dépendent des OPJ. Mais c'est une structure où...
Les auxiliaires de la justice se plaignent aussi.
Les OPJ dépendent des magistrats. Il est vrai aussi que ces OPJ ont leurs responsables, qui sont leurs chefs, les commandants de district, ainsi de suite, qui se mêlent dans l'administration. Parfois, vous pouvez envoyer une réquisition. Vous savez que entre les magistrats et l'OPJ, il n'y a que la réquisition qui parle. Il peut arriver qu'on va inspecter, mais on trouve, on dit non, attendez que le général vienne, attendez que le colonel arrive, ainsi de suite. Parfois, pour éviter certains incidents, nous décidons d'office, on libère des gens. Par moment, quand nous allons inspecter. Alors, c'est ce que nous déplorons. Et ça, c'est un problème de la nation. Ce n'est pas un problème des individus. Les gens doivent savoir faire la séparation entre les pouvoirs qu'ils exercent en tant que commandants et les pouvoirs des OPJ.
Parce qu'il y a quatre ans, il y a même une ONG qui avait déploré un cas d'un enfant qui a été arrêté dans un cachot, dans le district de la ville de Kinshasa, pour ne pas citer le cachot en question. C'est vrai, cette ONG a eu du mal à inspecter d'ailleurs, à avoir accès à la prison. Donc à ce niveau, on sent qu'il y a quand même un blocage parce que les généraux n'étaient pas là, les colonels non plus. Mais voilà, on ne pouvait pas donner accès.
Oui, mais il faut seulement dénoncer. Quand vous dénoncez, les généraux n'est pas au-dessus de la loi, moi encore les colonels. Moi, je suis en train de me poser la question, qui dit qu'il y a certains OPJ qui pensent qu'il faut répondre à la réquisition des magistrats parce qu'il faut que le général, comme dans la ville de Kinshasa ici, il faut que le général Oleko mette ses annotations pour qu'un OPJ réponde. Mais on n'a pas adressé cette réquisition au général Oleko. La réquisition a été adressée à un OPJ bien identifié. Et cet OPJ est censé recevoir et s'exécuter. Parce qu'il ne s'exécute pas. La loi...
Et il travaille en toute indépendance.
Oui, il travaille en toute indépendance. Il n'a qu'une seule autorité judiciaire qui est le magistrat. Alors, les dérapages dans ce sens-là, nous pouvons toujours... Mais ce que nous voudrions, ce que j'ai toujours prôné personnellement, c'est la dénonciation. Quand vous voyez un cas qui sort de l'ordinaire, dénoncez. Un magistrat, comme on a parlé d'un magistrat substitut du procureur général à Matete, s'il est vrai qu'il a posé des actes, celui qui a parlé c'est un avocat, il n'a qu'à déposer une plainte en bonne et due forme contre ces magistrats. Non seulement il sera sanctionné sur le plan disciplinaire si cela s'avérait être vrai, parce qu'on va nécessairement ouvrir une action disciplinaire à son égard, il sera aussi poursuivi parce qu'il n'est pas hors la loi. Il ne revient pas au magistrat d'aller procéder au morcellement. Il y a des services, chacun doit faire son travail. Chacun doit faire son travail, moi aussi, c'est le magistrat qui va procéder à des choses comme ça. Ce sont des choses à pouvoir dénoncer. S'agissant des critères en déjeuner ou de l'incompétence de certaines personnes, ça, ce sont des cas aussi isolés qui demandent à ce que les procureurs et les autres premiers substituts et substituts anciens qui ont la charge, par exemple, on a recruté cette fois-ci 2000 magistrats, ces magistrats doivent être encadrés suffisamment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui la nation ne s'est pas encore réalisée. Dans 2, 3, 4 ans, ce sont ces magistrats nouvellement recrutés ceux qui vont tenir la base de la justice, qui seront appelés demain à devenir des présidents des tribunaux de paix, des présidents des tribunaux de grande instance, des procureurs, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui leur encadrement est bafoué aujourd'hui, retenez que on y va pour une justice qui ne sera pas...
Oui, en quoi, à vos propos, Justin Moïbou, on a l'impression que la réforme, la dite réforme, le processus s'est arrêté à mi-chemin. C'est comme si...
Bon, c'est parce qu'on n'a pas... Écoutez, nous avions toujours demandé à son temps déjà qu'on tienne les états généraux. C'est parce qu'on veut tout simplement solutionner des choses qui n'ont pas été diagnostiquées. Vous ne pouvez pas apporter une solution en ayant, par exemple, créé... Aujourd'hui, il y a un problème. Vous allez créer les tribunaux de commerce. On en a créé, il n'y a que trois qui travaillent dans la ville, dans la République. Les trois là, il y a des juges consulaires qui sont déjà hors mandat, tout simplement parce que la FEC n'est pas en mesure d'organiser les élections pour que ceux-là soient remplacés. Alors, vous vouliez encore créer...
Vous avez ajouté encore un tribunal pour enfants.
Oui, vous créez
un tribunal pour enfants. Avec un juge et puis...
Avec un juge, alors que... dans toute la vie, voilà ce que nous disons, il n'y a pas de réforme comme ça. Ces genres de réformes, ce sont des réformes qui sont biaisées, parce qu'à la suite, on n'aura pas un résultat escompté. La réforme doit partir des états généraux, où on va faire l'autopsie de la justice. Quel est le problème que nous avons?
Comme l'a dit Maître, on doit faire l'anamèse.
L'anamèse de la justice. Alors à ce moment-là, on peut régler tous les problèmes que soulèvent les invités.
Voilà, nous avons en ligne d'autres auditeurs que nous allons prendre peut-être juste après le flash d'information. Freddy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Freddy.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà Freddy.
Bonjour voilà. Aux auditeurs de la radio.
Voilà Freddy, restez en ligne, on va vous prendre juste après le flash d'information. Voilà, Justin Moïbou, on va encore revenir à vous pour débattre sur la question et nous invitons les auditeurs à y participer. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Freddy, vous êtes à Kinshasa et Maître Trésor en Bandaka. Freddy, bonjour.
Oui, bonjour, encore une fois de plus.
Voilà, Freddy, merci de nous rejoindre. Vous avez suivi vos prédécesseurs. Vous avez à votre tour la parole.
Merci pour la parole. Je suis très content de l'invité du jour. Mais l'invité du jour est en train de... entre guillemets, doubler une chose. Je me rappelle, monsieur Joueur, je suis licencié en droit de la faculté de Lubumbashi. Je me rappelle, j'ai fini en 2010, lorsqu'on avait lancé le recrutement de magistrats. Nous étions encore en deuxième licence. Mais je vous dis, j'ai de preuves à l'appui qu'il y a des gens qui ont participé à ces 10 concours sans qu'ils soient même de notre domaine, des gens qui ont fait la science politique, parce qu'ils ont leur oncle, papa, qui que ce soit, qui a autorité, qui a quoi que ce soit, et puis il a participé, on lui a fabriqué de faux pièces, et puis aujourd'hui il est magistrat. J'ai de preuves à l'appui, moi qui vous parle ici. Et il y a des gens qui n'ont pas même mérité, qui ont participé à ce concours, qui ont réussi. Mais à toute règle correspond une exception, comme nous disons nous les juristes, il y a ceux qui ont mérité aussi. Mais vous parlez aujourd'hui de la réforme. Où est-ce qu'on va avec cette réforme? Et s'il n'y a pas du sérieux, et à ce qu'on a en train de faire du jour au jour. Je sais que l'invité est au courant de cette situation. Il ne veut pas le dire comme ça, parce qu'il a aussi de voir son travail. Je suis sûr et certain qu'il le sait.
Freddy, peut-être vous nous avez pris en cours hein, de cette émission. L'invité a insisté, il a montré noir sur blanc certaines réalisations au fait qui entrent dans le cadre de cette réforme, mais que en amont il n'y a pas eu une étude de faisabilité, c'est-à-dire on n'est pas passé au peine fin pour faire une étude approfondie sur les problèmes réels qui gangrènent la justice congolaise. Il a donné les cas par exemple d'un tribunal qui est de commerce et qui est installé, mais avec trois personnes qui y travaillent, mais dans quelles conditions? Bon, il y a autant de problèmes. On peut citer aussi les cas des tribunaux pour enfants et autres choses qui interviennent dans le cadre de la réforme. Mais bref, l'invité a parlé des états généraux qui devaient en principe précéder cette réforme pour que celle-ci puisse obtenir un succès. Freddy, merci d'avoir appelé de Kinshasa. Maître Trésor, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Parole.
Voilà, c'est plutôt JR qui est à l'antenne. Maître Trésor, vous avez également la parole.
Merci beaucoup. Maître Trésor Likonza, depuis Mbandaka, je suis acteur de la société civile. Je suis enseignant à l'université de Fatimé Mbandaka. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre invité qui a déjà balayé la question de la réforme de la justice. Ce qu'il a dit là, c'est très capital. Il faudrait une étude au préalable. C'est parce que ce débat est relancé à cause des plaintes des OPJ, policiers auxiliaires de la justice. Moi, en tant qu'avocat, je reconnais qu'il existe des failles du côté des magistrats, mais on ne doit pas parler de tous les magistrats en général. Il y a des cas particuliers où il faut chercher à éradiquer. Mais si et seulement si les OPJ et la police se plaignent contre l'attitude de certains magistrats pour du relâchement intempestif, tel que vous avez dit, des suspects, bandits, cela pourrait être juste pour le cas d'autres villes de la République, mais non pas pour la ville de Mbandaka, là où je suis. Hier, le chef de l'Équateur est depuis presque trois ans, donc devenu une salle de spectacle des inciviques appelée Koulou. Ils agressent, menacent et créent de l'insécurité parfois sous la bénédiction de la police. Donc, les incidents qui surviennent souvent à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, que tout le monde connaît, en constitueraient une véritable preuve. Ils accèdent pour agresser les députés provinciaux sans aucune intervention de la police ni un constat des OPJ. Pour ne pas tout reprendre ici, en dehors de la rébellion du samedi 18 décembre 2012 organisée à Mbandaka par Fekulu Nala, en présence de la police, s'il vous plaît, barricadant ici la route allant vers l'aéroport. Cette police a violé l'hémicycle de l'Assemblée provinciale pour faire sortir les députés.
Oui, maître Trésor.
Alors,
maître Trésor, s'il vous plaît. Maître Trésor.
Et là, sous la conduite.
Oui, maître Trésor, s'il vous plaît. Voilà, bon, si on peut s'écouter, c'est vrai, j'avais une question de relance. Bon, là, on s'attend pas. On ne sait pas vous relancer. Est-ce que vous êtes en ligne, maître Trésor? Voilà, donc là, on s'entend pas. Je voulais juste vous relancer, mais on se comprend pas. Finalement, ce n'est qu'une partie remise. Hein. Je crois qu'on pourrait vous récupérer très prochainement. Le temps pour nous de revenir à notre invité, Ghislain Mouéou, magistrat. C'est vrai, il y a certains de vos collègues juristes hein, qui ont aussi balayé d'un revers de la main cette réforme et qui vous ont appuyé en disant que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait des états généraux en amont. Mais aujourd'hui, c'est vrai, par où il faut attaquer cette réforme? C'est une question directe qui vous est adressée.
Oui, parce que c'est une question directe qui nous est adressée. Par où il faut attaquer? Il y a ce que nous appelons les opérateurs judiciaires, qui sont les premiers à être concernés. Les opérateurs judiciaires ici, je vois les magistrats, je vois les personnes de l'ordre judiciaire, je vois les avocats, et nous voyons aussi les partenaires, et nous voyons aussi les services pénitentiaires, parce qu'il n'y a pas seulement à envoyer les gens en prison. Il faut savoir que la prison doit être un endroit de rééducation de la personne. Donc la personne, lorsqu'elle doit quitter la prison, elle doit être moins violente qu'elle ne fut. Parce qu'il ne faudrait pas que la prison soit le lieu pour cette personne de devenir encore plus criminelle qu'il ne fut. Alors, ce qui fait que ça va demander à ce qu'il y ait implication, parce qu'il y a un ministère qui est en charge, qui est en charge la justice et les droits humains dans ses attributions, et c'est ce ministère-là qui est la courroie de transmission entre les pouvoirs judiciaires et les gouvernements. C'est la politique gouvernementale par rapport à la justice qui doit définir le cadre de la tenue de ces états généraux. Même la réforme, elle devra être décidée. Et c'est là où je ne suis pas d'accord qu'une ONG vienne organiser la réforme dans un état, parce que cette ONG ne pourra pas peut-être atteindre tous les coins et les recoins du pays. C'est pour ça que je souhaite que ça puisse partir des institutions étatiques, notamment le ministère de la Justice, qui doit organiser ces états généraux de la justice, de sorte qu'on fasse l'autopsie de la justice au Congo et qu'on tire les conséquences. Et c'est pour l'avenir. Parce que, vous savez, une justice au service des individus ne conduit qu'à un état ou à une république, je ne saurais pas utiliser certains termes qu'utilisent les politiciens, mais je préfère mais réservé quant à ceux. Mais
donc vous évitez de parler de la République bananière?
Non. Ça, c'est, ça vient de vous.
Moi, je bon, disons que c'est utilisé par les politiciens.
Un État qui est en voie de rechercher sa justice.
Voilà.
Alors, c'est dans cette perspective que nous, nous voyons, non seulement parce que je suis magistrat, mais vous savez, lorsque nous faisons notre autocritique, nous disons que il y a à beaucoup travailler. Parce que le magistrat, c'est un noble. Le magistrat, là, je vous parle dans le syndicaliste, le magistrat n'a pas besoin.
Mais aujourd'hui même, la relation entre avocat et juge, c'est vrai, aujourd'hui, bon, tout le monde, c'est pas un secret, hein, parce que c'est ce qui s'est dit dans le couloir. Les avocats sont des porteurs de mallettes des juges. Voilà, donc c'est pour raison de un éditeur qui a dit en avant,
c'est un business. Oui, oui, mais ces avocats.
Porteurs de mallettes.
Oui, ces avocats-là, ils sont dans une corporation. C'est là où on doit commencer par les sanctionner. Vous savez, nous avons un problème. Nous avons un problème. Le non-respect d'abord, et j'ai aimé qu'un des auditeurs, je crois que c'est l'homme de Lubero.
De Lubero, oui.
Oui, oui.
J'adore
oui, Lubero. Qui a même dit qu'il faut quand même qu'il y ait des enseignements, des cours élémentaires. Parce que l'ignorance de la Constitution est un facteur prédominant de tout ce que nous vivons. Parce que, je vous dis, ce qui amène les magistrats à ne pas être respectés. Et j'ai toujours été d'avis que, vous voyez, chaque fois qu'on veut jeter de l'opprobre à la magistrature, on fait allusion à l'argent. Et quand on fait allusion à l'argent, on parle des amendes, on parle de la caution, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on puisse envisager comment que c'est restructurer un peu voir comment avec la réforme de textes en rapport avec l'appareil judiciaire, comment on peut modifier certaines dispositions hein, qui prévoient, parce que ce sont des choses qui sont en train de ternir l'image de la magistrature. Et vous trouverez tout de suite là qu'il n'y a pas de caution considérable, si ce n'est que des miettes qui tombent et ça discrédite même le magistrat. Si par certaines décisions des autorités judiciaires, même par des décisions organiques, on peut restructurer un peu ou restreindre les champs d'application avec cette histoire de liberté provisoire. Il est vrai que c'est un problème national. Nous aimerions que nous tous nous soyons impliqués. Mais le plus grand travail doit être effectué au niveau.
Donc c'est à tort que les auxiliaires de la justice, c'est de n'étant se plaignent dans pratiquement toutes les chaînes de télévision, on a arrêté Tel Kuluna, les magistrats ont relâché.
Bon, vous savez, je vais vous dire ces choses. Les OPJ, nous n'avons pas assez de bonne qualité. Il y a des personnes, vous imaginez, ils peuvent faire une descente. Je vous donne par exemple l'exemple d'une structure comme la pire. La pire, elle ne peut procéder aux arrestations que dans une intervention. Parce que c'est une police d'intervention. Parce qu'il y a la police territoriale qui doit s'occuper de tous les cas, cette police-là de proximité. Alors, vous trouverez que parfois dans les interventions, on peut mettre la main sur un groupe de gens. Parfois, ce sont des curieux. Lorsque l'OPJ instruit, il n'entre pas en profondeur de l'instruction. Quand vous avez le cas, l'instituteur, c'est eux qui sont chargés de toutes ces enquêtes, ainsi de suite. Ce ne sont pas les magistrats. Les magistrats, ils tablent sur les données. Les magistrats n'ont pas à torturer quelqu'un pour obtenir des aveux. Voilà. Les magistrats instruisent les dossiers sur base de la loi.
Il y a beaucoup à dire. On va y revenir peut-être sur le pire et les interventions.
Oui, non, c'est pour dire que lorsque les OPJ ont mal fait leur travail, la conséquence, il y a des personnes qui peuvent être libérées. Il est vrai aussi qu'il y a des personnes.
Voilà, on aimerait bien le dire. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Merci, vous êtes magistrat, secrétaire général adjoint de SIMCO, syndicat de magistrats au Congo, et porte-parole de cette même structure. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, merci également à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Titim Poutou et Pierrot et Lamégi l'ont réalisé. Jir Lungebo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gaga. On se retrouve demain pour un autre numéro.